Bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de nous retrouver pour notre émission « Les premiers pas de l'histoire ». Aujourd'hui, le réseau des paléonautes et Antennes Doc vous propose d'aller à la rencontre de Louise Pierès qui nous fera visiter la maison du Piage située sur la commune de Fajolles. Partons dès maintenant sur les traces des derniers hommes de Néandertal et des premiers hommes modernes. Pour cela, installez-vous dans votre meilleur fauteuil, fermez les yeux, car la visite commence. Aujourd'hui, je me trouve à la Maison du Piage, en compagnie de Louise Pierès. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors voilà, on est dans le musée et puis je vous suis pour la visite.
On va commencer ici en fait par une petite remise en perspective du site du Piage. Donc la Maison du Piage est un espace muséal qui reprend le site archéologique du Piage. Qui était occupé depuis la préhistoire. Donc pour se situer, ici, on va être sur la préhistoire assez ancienne, donc le paléolithique supérieur, qu'on appelle, où on a eu deux occupations au Piage, celle de l'homme de Néandertal et Homo sapiens sapiens, qu'on appelle aussi Cro-Magnon, qui est, nous, à la préhistoire. Le site, il a été découvert dans les années 50 par deux archéologues, M. Espatillier et M. Champagne. Et ils ont fouillé à peu près 10 ans sur le site du Piage, qui a été révélé comme un site assez porteur par ces périodes d'occupation. Notamment, on avait retrouvé une couche archéologique où on avait des traces et de Néandertal et de Homo sapiens. Aujourd'hui, on sait que Homo sapiens et Néandertal se sont rencontrés à la préhistoire, mais on n'avait pas encore de preuves concrètes. Et au Piage, dans les années 50, c'est un site qui est resté emblématique pour cela.
Donc vous avez trouvé les preuves ?
On a trouvé quelques preuves qui, malheureusement, ont été remises en cause en 2004 lors de la reprise des fouilles par l'équipe de Jean-Guillaume Borde, qui a prouvé que non, Néandertal et Homo sapiens n'avaient pas cohabité sur le site. Cette information est restée 30 ans dans les livres, donc c'est un peu en même temps un bien comme un mal, parce qu'on a montré que l'archéologie est une science qui change tous les jours. Donc ils ont bien vécu sur place, mais pas au même moment. En fait, c'est un mouvement de terrain qui a mélangé les différentes couches archéologiques et qui ont donné cette erreur d'interprétation. Mais le site reste très important par sa succession de couches archéologiques, car on remonte a priori sur les dernières occupations de Néandertal en France et surtout sur les premières occupations de Homo sapiens en Europe, une couche archéologique qui s'appelle le proto-aurignacien. Et aujourd'hui, on connaît moins d'une trentaine de sites dans toute l'Europe où on retrouve cette couche archéologique. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante à étudier, parce qu'elle pourrait nous expliquer cette transition qu'il y a eu entre ces deux populations préhistoriques. À la Maison du Piage, un des buts qu'on a, c'est de redonner un peu ces lettres de noblesse à l'homme de Néandertal. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le voient comme un homme très sauvage, un homme singe, j'entends des fois. Ce n'est pas du tout le cas. L'homme de Néandertal, nous l'avons ici. Nous avons un petit crâne. Et ici, nous avons Homo sapiens. On essaie de voir avec les visiteurs les grandes différences qu'il y a. On va voir surtout qu'il n'y en a pas tant que ça.
Donc là, on est face à deux crânes, un de Néandertal et un d'Homo sapiens sapiens.
Ce crâne de Néandertal, c'est une réplique du crâne d'un homme de Néandertal qui n'est pas très loin d'ici, l'homme de la Chapelle aux Saints. Il nous apporte beaucoup d'informations sur la morphologie de l'homme de Néandertal. Et en plus, par son contexte, à la Chapelle aux Saints, on explique pourquoi il est bien particulier. Ce crâne, je vous inviterai à aller au musée de l'homme de Néandertal à Chapelle aux Saints, qui se situe à une heure de route d'ici. On vous en parlera bien mieux que moi, mais j'aime bien l'utiliser. Donc ici, on va voir les grandes différences. Ça va être la forme du crâne de Néandertal, qui est allongé en arrière. On dit qu'il a un chignon à l'arrière du crâne. Par rapport à nous, on a un crâne un peu plus rond. On dit souvent ballon de foot, ballon de rugby. Ses grosses arcades sourcilières, sa mâchoire avec un menton un peu effacé et des dents un petit peu différentes. À part ça, Néandertal nous ressemblait physiquement beaucoup. Il se tenait entièrement debout, comme nous. On peut le voir par le trou où vient se situer la colonne vertébrale, qui est au même endroit que le nôtre. Et c'est ça qui nous montre qu'on a bien une bipédie et qu'il se tenait bien droit. Si vous prenez le crâne d'un singe, ce trou-là va être plus en arrière et on verra bien que le singe a du mal à se tenir entièrement droit.
Oui, parce que là, le trou se situe vraiment en dessous, à la verticale du crâne.
Voilà. Si on n'avait pas ce trou à cet endroit-là, on aurait beaucoup d'inconfort à se tenir bien droit comme on le fait.
Lui, il lui arrivait quelques bricoles, on dirait, alors, le crâne est percé.
Ce trou-là, a priori, c'est un trou de découverte. C'est lors de sa découverte, il a pris un petit coup au crâne, mais ce n'est pas la façon dont il est mort. C'est lors des fouilles qu'il a eu un petit pet au casque. À part ça, Néandertal est en moyenne un petit peu plus trapu et petit. Mais je dis en moyenne parce que même si on regarde Homo sapiens aujourd'hui, on peut avoir des gens beaucoup plus petits, mais on dit qu'en moyenne, l'homme de Néandertal est un peu plus petit, un peu plus trapu au niveau de sa masse osseuse. Mais c'est un homme qui a une culture, qui a des traditions qu'on retrouve parce qu'on peut identifier différentes façons de vivre sur différents sites. Et ça veut dire qu'il y a une culture et une transmission qui s'est faite entre les différents hommes de Néandertal. Notamment sur l'apprentissage de la taille, parce que la taille du silex néandertal la maîtrise extrêmement bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au bac de fouilles. En fait, je vais vous expliquer comment on a recueilli toutes les informations, c'est ce que j'explique aux gens. C'est le travail de l'archéologue, qu'est-ce qu'il fait et comment il utilise toutes ces petites interprétations pour interpréter et arriver aux informations qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, musée magique, déplaçons le meuble. Nous arrivons ici sur notre espace de fouille, donc pour expliquer comment s'organise une fouille archéologique.
Donc là, vous avez reconstitué un espace avec de la terre, de la pierre, même de la roche, une falaise.
Oui.
Où c'est quadrillé.
Voilà.
Avec de la ficelle. Donc,
exactement.
Et quelques outils, donc vous allez nous expliquer tout ça.
Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur un chantier de fouille aujourd'hui ? Sur celui du pillage, par exemple, on a des techniques similaires qui sont utilisées par les archéologues aujourd'hui. Donc comme vous le disiez, il y a un quadrillage. En fait, ça, c'est un moyen qu'utilisent les archéologues pour se repérer dans l'espace, parce que chaque pièce qui va être enlevée du site va être pointée. Alors le quadrillage permet de se repérer dans l'espace. Donc ça va être divisé en lignes et en colonnes. Donc la ligne A, B et C, la colonne 1, 2, 3. Donc ce carré-là, ça va être le 2A.
D'accord, comme un jeu de bataille navale.
C'est ça. Et les carrés vont être encore subdivisés en 4. C'est 2A, 1, 2, 3, 4. Donc pour fouiller, vous voyez, il y a une planche ici. Le but, ça va être de ne jamais marcher sur le site. C'est pour ça qu'on installe des planches pour protéger le site, parce que c'est des vestiges très fragiles. Et du coup, si on marche dessus, on risque de les abîmer. Bon, les outils de base que l'archéologue va avoir, ça va être un pinceau, une truelle et ce qu'on appelle une petite pelle qui va être souvent en plastique. Car il faut faire attention avec le métal parce qu'on peut vite rayer quelque chose et apporter des traces modernes sur un vestige assez ancien. On a aussi un tamis, car toute la terre qui va être enlevée du site va être ensuite retamisé et c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver des objets assez fins qu'on n'aurait pas pu voir à l'œil nu. C'est comme ça qu'au piège, on a retrouvé une perle de 4 mm qui est une des perles les plus vieilles qu'on connaisse au monde aujourd'hui.
Un vrai trésor.
Elle est aujourd'hui à Bordeaux. C'est une perle qui a plus de 36 000 ans, qui a été retrouvée du coup de cette façon-là. On peut la dater parce qu'on sait exactement dans quel carré elle était et à quel niveau on l'a retrouvée. Vous avez ici une représentation des niveaux, notamment. Ici, on a représenté par un tas de terre qui est subdivisé en 4. Donc, vous pouvez voir ce qu'on appelle les couches stratigraphiques qui ont des différences de couleur, de texture. Et ça, on regarde toujours un repère en archéologie lors des fouilles pour se situer chronologiquement. Donc, tout en haut, la plus récente, et on remonte le temps vers la plus ancienne.
Et la plus ancienne, elle date de quand ?
Alors, sur le piège, les couches les plus anciennes sont plus de 45 000 ans, avant notre ère, avant Jésus-Christ.
Et là, quand on voit ces différentes couches, donc la première est beaucoup plus compacte avec des grosses pierres, et plutôt marron foncé, on va dire.
Alors, les couleurs, alors là, c'est exagéré pour illustrer,
j'imagine,
mais les couleurs et la texture, et ce qu'on va retrouver dedans, vont varier en fonction du climat et de la faune et de la flore qu'on va retrouver dedans. Elle peut varier aussi s'il y a une occupation. Des fois, on retrouve des lignes, des couches très très fines, noires. À certains endroits, en fait, ça va être une couche de cendre qui va être restée, qui s'est qui s'est fossilisé avec le temps. Et là, on peut voir qu'il y a une occupation qui s'est faite. C'est illustré ici, alors on ne voit pas très bien avec la lumière. Donc ici, vous avez des galets mis en rond avec de la cendre au milieu. Donc en archéologie, quand on va fouiller petit à petit, on va tomber sur des galets dans une position qui n'est pas naturelle. Avec de la cendre, on va faire de l'interprétation pour dire que c'est un foyer. Juste à côté de ce foyer, on voit qu'il y a beaucoup de pierres cassées. Et ces pierres-là, c'est du silex. Et elles sont cassées d'une certaine façon qui va nous essayer d'interpréter. C'est une zone de taille de silex où on a appris ou fabriqué des outils. À côté, on a un bois de cervidés. Pareil, on va retrouver beaucoup d'os qui seraient peut-être des restes de repas. Et en fait, c'est chaque petite information à chaque niveau et à des emplacements précis qui vont nous permettre de faire ces interprétations qui vont être ensuite mises pour étudier les modes de vie à la préhistoire. On a toujours, alors aujourd'hui ça se fait de plus en plus de façon informatique, un carnet de fouilles. On double souvent un carnet de fouilles papier et informatique pour toujours garder les informations. Parce que à partir du moment où on fouille un site, on le détruit. Parce qu'on ne pourra jamais remettre les informations comme ça. Donc le but, ça va vraiment être de récolter le plus d'informations possible pour être sûr, s'il y a un souci, de reprendre ces informations pour les réinterpréter. C'est ce qu'a fait Jean-Guillaume Borde quand, en 2004, il a repris l'étude de M. Champagne et M. Espatier, qui avaient 50 ans. Il a vu que la façon dont ils ont fouillé était très méticuleuse. Ils ont bien relevé tout ce qu'ils ont sorti du site. Et en fait, il a pu reprendre ces données et les réinterpréter avec les informations qu'on a aujourd'hui et dire « oui ». Ils se sont trompés, mais vu qu'ils ont très bien fait leur travail, je peux dire pourquoi et comment, et ensuite le réutiliser pour d'autres sites.
Et est-ce qu'il y a des photos qui sont prises aussi au fur et à mesure des fouilles?
Oui. Quand un objet est détecté, par exemple un objet important, ici on va avoir une dent. On ne voit pas tout de suite, mais ici nous avons une dent d'un animal qui s'est conservée. Alors, c'est un exemple comme un autre. Cette dent-là, avant de la retirer, parce qu'il faudra bien l'étudier, on va prendre toutes les informations qu'il faut, donc dans quel carré et dans quel sous-carré elle est. On va utiliser un instrument, maintenant électronique, qui permet de prendre sa position dans l'espace qui va être remis sur un ordinateur. On va prendre sa profondeur aussi pour l'adapter par rapport à la couche. On va prendre des photos, on va la dessiner, parce que le dessin est encore très utilisé en archéologie, parce que la photo c'est bien, mais on perd quand même beaucoup d'informations. Et quand tout ça sera fait, donc ça prend du temps, donc souvent on le fait pas un par un, on relève toutes les pièces qui sont sur le carré, et avant d'attaquer la couche suivante, du coup on pourra les enlever, et ensuite on les met dans un petit sachet avec sa petite fiche d'identité, donc dans quel carré elle a été enlevée, quel sous-carré, quelle couche, à quelle date, et le fouilleur qui l'a fait. Comme ça, si on la perd, on a toujours sa fiche avec toutes les interprétations. Cette dent-là, l'archéologue, quand il sort une dent de terre, il n'a pas forcément le temps de toutes les analyser d'un coup. Même tous les objets qui vont être sortis ne sont pas analysés sur place. Ils sont, à la fin de la fouille, tous récoltés et envoyés au laboratoire. Et un archéologue spécialiste de la faune va pouvoir l'étudier. Parce qu'en archéologie, aujourd'hui, on n'a pas un archéologue qui sait tout, ça se faisait avant. Aujourd'hui, on a une multitude de spécialistes.
C'est un travail d'équipe.
C'est un travail d'équipe. Au Piage, c'est une équipe internationale qui travaille dessus, avec plus de 28 chercheurs, tous spécialisés, et une équipe de fouilleurs bénévoles qui sont des étudiants de différentes facultés.
Donc ça veut dire que ce site, il a beaucoup d'intérêt pour que l'international s'y penche.
Le site a beaucoup d'intérêt, notamment par la couche dont je vous parlais tout à l'heure, le proto-aurignacien. Il est fouillé avec beaucoup de minutie. Aujourd'hui, c'est, à ma mémoire, je pense, le seul site en plus qui forme des étudiants à l'archéologie sur place. En fait, c'est l'Université de Bordeaux, avec le laboratoire PACEA, qui forme des étudiants, qui s'est compris dans leur master, en fait, de venir fouiller sur le site du Piage. Habituellement, dans les formations d'archéologie, on a des fouilles à faire, mais c'est compris en dehors de notre temps à l'université. Le labo PACEA, du coup, lui, il a dit qu'on allait, dans le temps de cours compris, on allait faire fouiller les étudiants. Et du coup, il y a une grande minutie qui est faite parce qu'on veut former les étudiants pour les archéologues futurs à faire les choses bien avec une méthodologie très stricte. Il faut savoir que depuis 2004, Sur le site, on y va très doucement. Sur une zone donnée, je pense que ça fait 10 ans qu'ils sont dessus, ils ont dû descendre peut-être d'1m50 à 1m60. Donc c'est très minutieux, on a quand même quelques mètres carrés, mais on le fait millimètre par millimètre. Je crois que les couches de décapage sont de 1 cm à la fois.
Pas de fourmi.
Voilà. Il faut savoir aussi que je vous expliquais tout à l'heure qu'on tamisait toute la terre qui est reprise. On tamise donc avec des maillons de 2 mm. Et il y a même des échantillons de terre qui sont pris pour tamiser au micro, pour relever tout ce qui est pollen, tout ce qui pourrait informer sur l'environnement et reconstituer les climats qu'on a à la préhistoire. On les connaît, mais c'est toujours intéressant par région de voir s'il y avait une certaine flore différente. Il faut savoir qu'en plus le Piage se situe sur deux zones géologiques assez différentes, un peu au milieu. C'est un endroit assez stratégique, on a deux climats qui se confrontent sur place. Parce qu'il faut savoir qu'à la préhistoire, en tout cas à la période dont je vous parle, pour le paléolithique supérieur, on a des successions de climats différents. Là, on est sur plus un climat glaciaire, et du coup, l'environnement est totalement différent. On est sur des steppes, on n'a pas de grandes forêts comme on a aujourd'hui, et le Piage, a priori, était une zone assez stratégique. Ici, vous avez une représentation en fait, du site en dessin, qui vous montre un petit peu à quoi pouvait ressembler le Piage. Donc on a cet abri avec ces deux grottes et une vue en fait sur la plaine, un peu en hauteur, avec un point d'eau juste à côté. Donc c'est un endroit assez stratégique pour la chasse, qui pouvait être assez intéressant.
Dans les steppes, il ne restait plus que la chasse, la cueillette ne se faisait pas trop du coup, si c'était assez désertique.
Ça dépend, il y a toujours des petites variations de climat, parce que là on est sur des échelles de temps qui sont assez importantes. Mais oui, c'est vrai que la chasse est assez importante, même si on reste chasseur-cueilleur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux objets, à certains objets qu'on retrouve au Piage. Et ici, on a des tiroirs qui sont organisés comme des couches stratigraphiques, comme des couches archéologiques en fait, avec les différentes occupations du Piage. Donc on va dire qu'on en a quatre grands principales à la préhistoire, donc du plus récent au plus ancien. Donc si on commence par le plus ancien, on va ce qu'on appelle sur le Moustérien et ensuite le Châtel-Péronien. Donc ces noms un peu barbares qu'on a ici, le Solutréen, l'Aurignacien, le Proto-Aurignacien, sont des noms éponymes. Donc par exemple pour le Moustérien, c'est le site éponyme du Moustier, où pour la première fois on a identifié cette culture, parce qu'on parle de culture parce qu'il y a transmission qu'on retrouve sur différents sites, les mêmes façons de travailler les outils, l'os, le silex, de vivre en fait.
Et là, ça serait quelle époque ?
Plus de 45 000 ans, pour les plus anciennes qu'on connaît. Donc ici, on a des objets qu'on peut manipuler au Piage. Alors, pas tous, malheureusement. Certains sont des pièces authentiques qu'on a retrouvées sur le site, mais qui sont des pièces hors contexte, entre guillemets. C'est qu'on sait qu'elles sont anciennes, on peut les identifier grâce à la façon de travailler la pierre. Mais ils ont été issus de fouilles clandestines, de remassages de surface, donc on a perdu leur contexte. De la même façon que je vous expliquais tout à l'heure sur le site de fouilles, on prend au millimètre près maintenant la position pour dater en fait l'objet et de savoir dans quel contexte il a été retrouvé. Aujourd'hui, si je retrouve un biface, je peux l'identifier comme biface, mais si je n'ai pas tout ce qu'il y a autour, je sais juste que c'est un biface.
Donc biface, ça veut dire qu'il était travaillé des deux côtés.
Voilà, le biface, c'est un peu l'outil, un peu celui qu'on voit à l'école, le premier. Le biface, donc tranchant sur deux côtés, travaillé sur deux côtés, c'est le couteau suisse préhistorique. Celui-ci en particulier est typique du Moustérien, donc va être travaillé par Néandertal. C'est pas un silex d'ici, il faut savoir que dans le Quercy, on a très peu de silex. Et celui qu'on trouve est de très mauvaise qualité. Du coup, déjà Néandertal et plus tard nous, on va faire quelques kilomètres pour en chercher, mais surtout on va faire des échanges. D'accord. Il y a déjà des formes d'échanges, on le voit par des objets qui n'ont rien à faire en fait ici, qui se retrouvent des objets qui vont se retrouver sur le site du Piage et qui ont parcouru des très grandes distances.
Donc c'était du troc ?
Du troc, oui. On ne peut pas parler de commerce parce qu'il n'y a pas de monnaie, mais c'est du troc. Chose intéressante, au Piage, on a retrouvé des coquillages percés qui viennent de la Méditerranée. Donc ici, on a le premier objet que je présente au musée, c'est le biface moustérien. Donc le biface, comme je vous disais, c'est un couteau suisse, c'est qui va servir à plein de choses. Il a une face tranchante pour couper. Il va être utilisé aussi pour racler. C'est un petit peu l'outil multifonction qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Quand on avance un petit peu dans le temps, on va voir qu'on va laisser de côté le couteau suisse pour adopter plus une boîte à outils. Et surtout, les objets vont se spécialiser pour leur fonction stricte. Pour tailler le silex, on a différentes méthodes qui vont évoluer, comme je vous disais, avec les cultures. Donc le moustérien, il aime bien le biface, mais il y a d'autres outils. Ensuite, on va très rapidement passer à une autre technique qu'utilisait l'homme de Néandertal, parce que là, on n'est que sur des occupations de l'homme de Néandertal. Ça va être la technique qu'on appelle levalloise. Donc c'est une façon de tailler la pierre. Il faut savoir que Néandertal, il connaissait très bien la matière première qu'il utilisait. Il n'avait pas juste donné un grand coup sur le silex pour sortir des éclats moches, c'est qu'il pouvait prévisualiser ce qu'il allait sortir. Donc c'est un silex qui est travaillé sur ses bords de chaque côté. Et ensuite, avec un dernier coup franc à un angle bien précis, il va pouvoir détacher ce qu'on appelle un éclat. Là, il a été retaillé pour rajouter du tranchant. Et ensuite, il pourra être retravaillé encore une fois. C'est une technique aujourd'hui que même des bons tailleurs de silex, c'est pas très évident.
Donc ils avaient la maîtrise totale.
Il y avait de la maîtrise et sûrement de la transmission. Parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose d'inné. Donc pour tailler le silex, on peut utiliser différents outils. Donc ici, au pillage, on a retrouvé des petits galets durs qu'on va utiliser comme percuteur. On peut utiliser aussi du bois de cervidé qui va permettre de tailler d'une autre façon. En fait, ça va pas du tout faire les mêmes éclats. On a certaines espèces d'arbres qui vont être utilisées aussi. Selon l'arbre qu'on va utiliser, enfin, le bois, ça va pas du tout sortir les mêmes choses. Pareil pour le galet. Selon la dureté du galet, ça va faire des éclats plus ou moins fins et surtout plus ou moins précis. Il y a une multitude de techniques qui sont utilisées. L'avantage du bois de cervidé, c'est qu'il se conserve dans le temps, alors que le bois végétal, à part conditions extrêmes, souvent on n'en a pas de traces. Donc on peut voir sur certains bois de cervidé, et surtout sur des galets, de la percussion qui montre que c'est un outil qui a servi à tailler le silex. Autre technique qui va beaucoup évoluer avec le temps, c'est le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la technique levalloise, mais c'est la technique lamellaire. Donc c'est pour sortir des lames, en fait l'ancêtre de notre couteau. Sur la partie tranchante de notre couteau, ce qu'on appelle une lame, il manque juste le manche. Alors le manche, il pouvait exister avec un os ou avec du bois, mais pareil, souvent ça ne se conserve pas. Ou juste avec un morceau de cuir pour tenir la lame, parce que sinon, si j'essaye de l'utiliser comme ça, je vais sûrement me couper.
Et là, du coup, il n'y a qu'une face qui est taillée, tranchante.
En fait, quand on va sortir la lame du bloc qu'on appelle le nucléus, en fait, c'est le bloc de silex, et on va sortir l'éclat. Donc là, il y a la partie très tranchante. Après, on peut la retravailler en retravaillant encore avec un galet ou avec un bois de cervidé. Mais déjà, quand je sors un éclat du silex, c'est très tranchant. Alors ici, c'est ce qu'on va retrouver typiquement sur le site. On va retrouver du charbon, parce qu'il y a des foyers. Alors, l'avantage du charbon, c'est qu'on peut faire de la datation.
Au carbone 14.
Voilà, qu'on ne peut pas faire sur le silex. C'est comme ça qu'on fait de la datation, ce qu'on appelle indirecte. Si on retrouve un silex au même niveau exact qu'un charbon, on peut déduire par datation indirecte que le silex est la même date que le charbon. On va retrouver donc beaucoup d'éclats de silex. Ce sont des déchets, en fait. Énormément de faune. On a une très bonne conservation sur le piège au niveau de la faune, donc des ossements de restes de repas. Sur certains de ces ossements, alors, si je vous en prends un ici. Donc là, ici, on a un morceau de mâchoire d'un animal, a priori, encore du cervidé. Alors, quand je vous dis encore du cervidé, c'est assez simple, c'est qu'au piège, plus de 90% des restes d'animaux qu'on va retrouver, ça va être du renne, en tout cas du cervidé, parce qu'il y avait un peu une obsession sur cet animal au piège. On retrouve d'autres animaux, mais en vraiment plus petit pourcentage, et souvent pour d'autres choses que je vous montrerai juste après.
Peut-être que le cervidé était plus facile à chasser.
Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'un renne, ça se déplace en troupeau, ça a des cycles bien connus, et c'est beaucoup moins gros qu'un bison ou qu'un mammouth, et beaucoup moins dangereux surtout. Il y a d'autres sites où on trouve beaucoup de chasses de bisons, mais il se trouve qu'au Piage, il y en a un peu moins. Sur certains des ossements, on retrouve des traces de découpe, ce qu'on appelle. Donc c'est des traces de découpe de silex où on a vraiment raclé les os. Et les os, ils vont être utilisés au plus possible. Donc on va même récupérer la moelle à l'intérieur. Parfois, sur des climats très glaciaires, on a très peu de bois. Donc le bois va être au contraire utilisé plus pour fabriquer des outils. Et les os, il se trouve qu'on peut les brûler aussi. Ça fait un très bon combustible, ça sent très mauvais. Mais ça peut être brûlé en cas de pénurie de bois. On va passer sur une période un peu plus récente, donc la période qui nous intéresse. Alors il faut savoir que ça, c'est les informations que j'ai des fouilles de M. Champagne et M. Espatillé. Pour vous donner une échelle, Jean-Guillaume Borde et son équipe sont arrivés tout juste au proto-rhinacien, au niveau des couches archéologiques, donc ils sont en train d'étudier le proto-rhinacien. C'est pour ça que j'ai moins d'informations pour les périodes les plus anciennes. Comme je vous expliquais, c'est une période très charnière qui est très mal connue, en plus en préhistoire, et elle pourrait nous donner beaucoup d'informations sur cette transition entre Néandertal et Homo sapiens.
Donc là, on est sur quelle période proto-rhinacienne, ça fait ?
Autour de 36 000 ans. L'intérêt du proto-rhinacien, c'est sur sa façon de tailler, en fait. Il y a des techniques qui sont empruntées de Néandertal avec des méthodes purement Homo sapiens. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait eu peut-être un échange de savoir-faire entre Néandertal et Homo sapiens.
Ce qui pourrait prouver leur rencontre.
Alors, leur rencontre aujourd'hui, on est pratiquement sûr qu'elle a été faite, c'est juste qu'on ne l'a pas encore prouvée avec les sites archéologiques. On le sait par notre ADN. C'est en 2010 qu'on a détecté que toutes les populations qui sont originaires d'Europe et d'Asie ont entre 2 et 4% de gènes néandertaliens en eux. Ce qui voudrait dire rencontre et en plus reproduction. On est quand même des cousins très proches. On vient de populations d'Afrique communes, mais c'est juste que nous, Homo sapiens, on s'est développé en Afrique, alors que Néandertal s'est développé en France. Et le fait qu'on ait réussi à se reproduire et en plus à avoir des enfants non stériles, parce que vous savez, quand il y a deux espèces très proches qui se reproduisent, le lion et le tigre, ça donne un tigron, mais c'est un animal stérile. Là, Néandertal a réussi à nous transmettre quand même beaucoup de gènes. 2 à 4%,
c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Ça, c'est sûr, on sait qu'on s'est reproduit, ou en tout cas qu'on s'est rencontré. A priori, on l'a fait plus à l'est de l'Europe. On n'est pas sûr qu'on l'ait fait en France. Mais ça, c'est notre ADN à nous, aujourd'hui, moderne, où on peut le détecter. Donc oui, c'est pour ça que le proto-orignacien, on voit, en plus de la reproduction, qu'il y a eu peut-être échange de savoir qui s'est fait entre homme moderne et Néandertal. Alors, dans les pièces assez exceptionnelles qu'on a au musée, hop, nous avons ceci.
Ah, c'est tout petit.
C'est tout petit, et souvent j'essaye de le faire deviner aux visiteurs.
On dirait une dent.
C'est une dent, mais de quel animal ? Ça, c'est intéressant.
Un tigre, un félin, je dirais.
Ce n'est pas un tigre à dents de sabre. Celui qu'on connaît très bien et s'est développé aux États-Unis et il n'a pas connu l'homme. Non, tout simplement, ça, c'est une dent de requin.
Ah oui, rien à voir avec un félin.
Voilà. cette dent de requin, elle a été retrouvée au Piage aussi, et elle a été utilisée en parure. Donc cette dent encore, elle montre qu'il y a eu troc, parce que le requin, il n'y en avait pas au Piage, et a priori, ce n'est pas un fossile qu'on va retrouver dans cette région-là. En tout cas, au Piage, on a beaucoup retrouvé de parures.
Il y avait un sens particulier de la coquetterie.
Voilà. Déjà, à l'époque. Les bijoux, bien sûr, ils ne sont... Alors, Homo sapiens, on utilise beaucoup plus que Néandertal. Néandertal, on en retrouve un petit peu moins. Mais c'était pour toute population. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux femmes. C'est pour les femmes, les hommes et les enfants. Souvent, quand on a retrouvé des sépultures avec beaucoup de bijoux, on s'est dit que c'était une femme, alors qu'ensuite on a réalisé que c'était pour un homme. Donc c'est pas une appartenance genrée, en tout cas. Ici, on va retrouver donc, différentes lames. Une très grande lame, ici. Donc une lame, en fait, le principe, c'est un éclat de silex qui est plus long qu'il n'est large. Mais cette lame-là ne va pas avoir la même fonction que celle-ci, qui est plus petite.
Oui, parce que là, on est devant une lame qui fait à peu près 25 cm, je dirais, de haut, et oui. L'autre, elle fait à peine 10.
Voilà, c'est ça. Et même, on peut retrouver ce qu'on appelle des lamelles, qui font moins de 2 cm. Alors, souvent, elles ne sont pas utilisées seules, mais cette lame va être utilisée peut-être pour la plus grosse boucherie. alors que celle-ci va être plus utilisée pour des travaux fins. En fait, tout ça, ça va être étudié par ce qu'on appelle un tracéologue, qui va utiliser les traces d'usure qu'on va retrouver sur un outil, et c'est comme ça qu'on peut identifier sa fonction. Parce que je vais vous montrer beaucoup d'outils aujourd'hui, mais juste en les regardant, on ne peut pas deviner. Malheureusement, les hommes de la préhistoire ne nous ont pas laissé une fiche détaillée de leur boîte à outils. Donc c'est comme ça qu'on peut interpréter. Le tracéologue, il va utiliser l'expérimentation et l'étude microscopique de ces outils pour pouvoir comparer des traces d'usure. Alors ici, je vais vous montrer deux outils. Alors ça, ce sont des reproductions parce que les vrais sont trop fragiles à manipuler. Hop ! Ces deux outils-là.
Donc il y en a un qui vient du proto-aurignacien et l'autre
de l'aurignacien. Voilà. Ce sont les mêmes outils, mais pas de la même période. Et surtout, ils n'ont pas la même matière première. C'est pour ça qu'ils ont une forme un peu différente. Ce sont tous les deux, en fait, des pointes de sagaie. L'une est faite en bois de cervidés et l'autre en os de cervidés. Donc ils ne vont pas avoir exactement la même forme, voilà. Et en fait, comme je dis, ce sont des pointes de sagaie. Alors elles peuvent avoir des formes multiples. Hein. Des fois, ça peut être utilisé en silex, mais c'est vrai que l'avantage de l'os et du bois de cervidé, c'est qu'elles sont un tout petit peu plus solides. Le silex a tendance à se casser, et si on veut l'utiliser, il faudra des pointes beaucoup plus fines. Là, ce sont des pointes à peu près de plus de 10 cm, qu'on va rajouter sur ce qu'on appelle une sagaie.
Qui est assez grande, hein. Ça fait au moins presque 1,80 m.
Voilà, la sagaie, c'est une petite lance, entre guillemets. Mmh. Néandertal va l'utiliser seul, en fait, pour aller chasser divers animaux. Et nous, autour de 25 000 ans, on va inventer ce qu'on appelle le propulseur. Ce propulseur va se rajouter à la pointe de sagaie et à la sagaie, en fait, va être rajouté au bout de cette petite lance, va nous servir à propulser la sagaie et littéralement doubler notre force.
D'accord, donc elle s'accroche en haut, ça fait voilà. Comme un système de crochet, en haut de la lance.
Il y a un petit crochet en haut du propulseur et il y a un petit trou au niveau du haut de la sagaie qui va permettre de l'accrocher. Le but, ça ne va pas être de lancer forcément plus loin, même si on peut un peu plus se protéger des animaux, mais surtout, ça va nous donner beaucoup moins de force, ça va nous permettre de viser, surtout. Et ça va vraiment développer notre façon de chasser. Donc ces pointes en os, on peut rajouter dessus des petits apports en silex pour ajouter du tranchant, notamment des toutes petites lamelles, ce qu'on appelle lamelle à dos. Donc comme je vous disais, c'est ça peut petit. Être très petit. Celle-ci fait moins de 2 cm, donc c'est pour ça qu'on l'appelle lamelle, qui va être rajoutée sur une pointe de sagaie pour ajouter un tranchant. Vous avez de l'autre côté dans les vitrines des exemples où en fait on va fendre la pointe de sagaie, rajouter la lamelle avec une sorte de colle faite de résine végétale. On va pouvoir l'emmancher dessus. Alors ici, on a un petit peu ce que je vous parlais tout à l'heure, cette boîte à outils qui va se développer, pas avec Homo sapiens en fait, sur l'aurignacien. On va vraiment avoir plein d'outils différents qui ont chacun leur spécialité. Donc ici, nous avons un grattoir et ici un racloir. Cette partie arrondie va servir à travailler la peau des animaux. Et celle-ci à la nettoyer, en fait, à enlever toutes les impuretés, donc à racler la peau, et celle-ci à gratter. Donc pareil, en vous les montrant comme ça, on n'aurait pas pu identifier. C'est le travail du tracéologue qui va étudier ces pièces et, par l'expérimentation, pouvoir déduire à quoi elles servaient.
Oui, parce que lui, il se remet en condition avec les mêmes outils.
Voilà, il va reproduire les outils à l'identique plusieurs fois et tester plusieurs techniques, voir ce qui fonctionne le mieux, et ensuite surtout comparer les traces d'usure. On a aussi ce qu'on appelle le burin. Alors pareil, comme ça, on n'a pas l'impression que ça sert à grand-chose. Il a cette pointe qui va être comme une empreinte digitale, c'est qu'il n'y a jamais deux pointes pareilles sur le burin, et elle va être utilisée pour travailler le bois, l'os, toutes les matières molles en fait, pour les sculpter, pour justement donner cette pointe de sagaie. Alors c'est la première étape, ce qu'on va servir pour graver en fait, pour travailler tout ça. Et surtout le burin, il peut être utilisé pour faire de la gravure sur des galets, des dessins, sur des parois aussi de grottes, parce qu'on parle beaucoup de peinture, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de gravures à la préhistoire. Et c'est assez intéressant parce que même si le burin est bien conservé, on peut voir s'il a été utilisé pour l'empreinte que va laisser le burin est assez unique. Du coup, si on utilise une gravure très précisément, on peut même savoir quel burin est utilisé, si on retrouve le même burin.
Mais par exemple, s'il peut se trouver qu'en dessous une gravure, on retrouve le burin, par exemple, c'est peut-être arrivé ?
Oui, c'est arrivé. On a pu identifier que ce burin avait été fait pour faire cette gravure. Et on peut retrouver aussi, par exemple, je vous montrais le propulseur. On connaît des propulseurs qui sont entièrement ornés et gravés, même sculptés. On en a des très connus en Ariège, je pense à celui du Mas d'Asile, où on a un faon en fait entièrement sculpté sur un propulseur. Alors c'est pas que le burin qui est utilisé, on a aussi des polissoirs, mais on aime bien orner son matériel en fait.
Ils avaient un sens artistique déjà bien développé.
Sûr. Alors, tout à l'heure je vous parlais comme quoi le renne était très présent au piège. Donc ici nous avons retrouvé beaucoup de dents de renne, mais aussi d'autres animaux qui ont été retrouvés. On a celle-ci, ça c'est à peu près le deuxième animal le plus consommé à la préhistoire, c'est le cheval. Dents de cheval. Souvent, comme elle est très grosse, on dit que c'est du mammouth, mais dents de mammouth, c'est bien plus important, c'est une petite brique, disons. Et ici, nous avons... Alors, ce sont des reproductions, mais on a retrouvé des choses assez similaires, enfin, totalement similaires d'ailleurs, au piège. Celle-ci, c'est une dent de renard polaire. Et celle-ci, une incisive de bison. Toutes les deux percées et utilisées en parure. Alors pareil, on a vu la façon dont c'était percé et même l'usure, parce qu'à force de porter un collier, on use le trou dans lequel on va passer la ficelle, que ça a bien été porté en parure. Alors la parure, c'est pas forcément autour du cou, ça peut être aussi dans les cheveux ou sur les vêtements. Autre chose qu'on a retrouvé, on a retrouvé des serres de rapace et une dent d'ours, alors que j'ai pas ici, mais on l'a retrouvé aussi au piège. Alors on va passer au dernier tiroir.
Solutréen
et Bagdellounien. Donc pareil, des sites éponymes. Le site de Solutré, qui est assez connu. Alors c'est la période la plus récente qu'on a au piège. Et pareil, elle est très intéressante. Il faut savoir qu'au piège, on a retrouvé des restes humains. On a retrouvé du Solutréen. On a trouvé un crâne, alors très abîmé. Et c'est le seul crâne Solutréen qu'on connaisse au monde. On ne sait pas ce que les Solutréens faisaient de leurs restes, en fait. On ne trouve pas de sépulture. Donc retrouver un crâne Solutréen, c'est assez rare. On a aussi retrouvé une dent de lait, alors plus ancienne, là c'était l'orignacien, qui était totalement calcinée au piège. On l'a retrouvée il y a 2 ou 3 ans, lors des dernières fouilles. Alors, dans les autres outils dont je ne vous ai pas parlé, ici nous avons un perçoir. Donc comme le grattoir qui sert à gratter et le racloir qui sert à racler, le perçoir sert à percer. Donc par exemple, percer ces dents que je vous ai montrées.
Pour en faire des bijoux, des
pour
perles.
Pour en faire des bijoux, exactement. Alors, une des grandes inventions du solutréen, innovation, c'est l'outil qui n'a pas été pratiquement modifié depuis 19 000 ans. C'est une aiguille à chat. Avant, on utilisait des poinçons pour faire des trous. Et les solutréens vont inventer ces aiguilles, alors plus ou moins grosses. Celles-ci sont faites en os. Et on en a retrouvé aussi au piège. Là, ce sont des reproductions, parce que pareil... Aussi fin, c'est quand même en os, mais ça se casse très facilement. Bien. Donc c'est une innovation au solutréen qui vont permettre une innovation au niveau de la couture, avoir des choses plus, peut-être des vêtements plus adaptés, plus adaptés au froid en tout cas. Ici on a encore des pointes de sagaie, alors très bien travaillées pour les solutréens. Les solutréens sont de très bons... Ils savent très
artisans,
bien. Voilà, très bons artisans, voilà, exactement. Et vous pouvez voir la finesse avec laquelle ici ils ont travaillé leur pointe de saillie.
C'est très fin, c'est vrai que on voit que les outils ont évolué avec le
voilà.
temps.
Et je finirai pour la présentation de ces objets par une très belle pièce au musée. C'est une feuille de laurier. Alors pareil, souvent je finis avec essayer de deviner à quoi servait cet objet. Donc c'est un objet en silex. Travailler sur tous ces bords. Est-ce que vous avez une idée ?
Je vais sûrement tromper, mais je me disais une pointe pour chasser, quelque chose comme ça.
Alors, ça fait très envie, parce que cette forme pointue qu'elle a. Alors, si j'essaye de chasser avec cet objet, elle va se casser, parce qu'elle est extrêmement fine. Si je vous mets de la lumière derrière, vous allez pouvoir voir à travers, pratiquement. Alors, il existe des toutes petites feuilles de laurier qui sont utilisées pour la chasse. Mais d'aussi grandes feuilles de laurier. Alors selon à quelle période du solutréen on est, que pareil, elles sont redivisées en sous-périodes. On a des feuilles de laurier ou des feuilles de sauge, très grandes comme ça. En fait, ces objets ne servent à rien. Alors souvent, j'aime bien dire à rien parce que ça frustre les gens après avoir cherché pendant un quart d'heure. Mais pour dire que ça n'a pas une fonction propre, utilitaire. Ce n'est pas fait pour découper, ce n'est pas fait pour chasser, ce n'est pas fait pour scier. C'est un objet, a priori, qui tend plus vers l'artistique. Notamment, les tracéologues l'ont étudié. Il n'a pas de trace d'usure qui serait adaptée à un usage quotidien. En plus de ça, c'est un objet qui se casse très facilement, qui est très très difficile à fabriquer. Ça prend de longues et longues heures à fabriquer. Et comme ça se casse facilement, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Donc, sans donner de réponse précise, on le met plus dans la catégorie artistique, objet symbolique, sans trop rentrer dans l'interprétation, parce que je ne m'y aventurerai pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un objet utilitaire du quotidien. Il avait une fonction. On en retrouve en plus d'énormes quantités à cette période-là, mais à chaque fois, pas utilisé.
Parce qu'on voit, ça a été taillé sur les côtés.
Ça a été taillé absolument partout. Si vous regardez, en fait, il y a des enlèvements absolument partout. Mais c'est pour donner ce côté très symétrique à la pièce et très fini. Mais là, ici, elle n'est pas tranchante.
Comme une feuille, en fait. Vraiment.
Voilà, elle a cette forme de feuille de laurier. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Donc, voilà pour les objets qu'on a retrouvés au piage. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut savoir que le site est encore fouillé aujourd'hui. Les archéologues viennent tous les ans. Ils sont même venus l'an dernier, au moment du déconfinement, pour continuer les fouilles. Et tous les ans, on a de nouvelles informations qui arrivent et qui arrivent jusqu'au musée. Et du coup, je réadapte la visite. Ensuite, ici, on a chaque panneau qu'on va retrouver. Je pourrais m'y arrêter quelques minutes. En fait, on a des informations complémentaires. Donc ici, un petit peu de localisation pour notamment ces sites proto-orignaciens. On a une partie sur le climat et sur les paysages qu'on pouvait retrouver à la préhistoire avec les différentes périodes d'occupation. Donc savoir que le solutréen, c'est un peu avant les périodes de la grotte de Lascaux. Donc c'est avant le grand réchauffement climatique qui s'est fait où on a notre climat actuel. C'est des climats différents, c'est pour ça qu'on a des plantes différentes, des animaux différents qui vont s'adapter en fait au climat ou alors totalement migrer.
Et est-ce qu'il y a un animal qui a suivi tous ces climats qu'on a pu retrouver à toutes ces périodes ?
Avec des petites évolutions, on a le cheval, alors le cheval de Przewalski, mais aujourd'hui on en retrouve plus dans les climats polaires mais qui sont adaptés. Le renne a été remplacé par le cerf. Le mammouth a migré vers le nord jusqu'à disparaître. On a des bouquetins qu'on retrouve aussi à la préhistoire. Pareil, l'ours qu'on trouvait sur ces périodes-là, c'est ce qu'on appelle l'ours des cavernes, qui est beaucoup plus important que notre ours actuel. Ici, on a, au niveau des formations géologiques, donc les différents silex qu'on peut retrouver au piage. Donc, chaque silex, il va être différent selon sa localisation. Il y en a qui sont plutôt de bonne qualité, comme ici on a le bergeracois, qui est très facilement reconnaissable par ses auréoles. Et ici on a du silex qu'on retrouve en le Quercy. Vous pouvez voir, il est pas très bonne qualité.
Parce que là, il y a à peu près 6 sortes de silex qui sont exposés.
Oui. Ils peuvent aller presque à la frontière espagnole ici, jusque voilà, on remonte un peu, mais le silex, il va beaucoup voyager à la préhistoire. Ici, on a les différentes démonstrations de taille qu'on va retrouver aussi au piage. Donc, on a la fameuse feuille de laurier, les grandes lames qu'on va pouvoir faire à partir du bloc, le nucléus ici. Et pareil, la technique levalloise que je vous expliquais tout à l'heure. On a aussi notre cher homme de Néandertal qui est représenté et Homo sapiens.
En face à face.
Face à face, où on a les différentes théories. Alors, certaines aujourd'hui ont bougé sur comment Néandertal a disparu, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de population 100% néandertalienne, mais on est encore sur plusieurs théories sur comment il a disparu, comment on s'est rencontré, sous quelle forme. Il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de traces de violence à cette période-là, donc il y a forcément un lien avec nous, parce qu'après que nous sommes arrivés en Europe, Néandertal, petit à petit, a disparu. Mais on ne sait pas le contexte exact, comment ça s'est passé. Ici, vous avez la petite perle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment, on n'aurait pas pu la trouver sans le tamisage. Une petite perle en os.
De quelques millimètres.
Voilà, je crois qu'elle fait 3 millimètres en tout.
Et percée en son centre.
Oui.
Ça demande beaucoup de minutie et puis de la maîtrise encore.
Oui, c'est pas évident de faire des trous aussi fins. Et ensuite, vous avez les différents outils en os qu'on pouvait, ou en bois de cervidier qu'on pouvait retrouver aussi. Ici, on a le harpon. Donc utilisé par Homo sapiens, même si on a des traces comme quoi le Néandertal pêchait, nous on a utilisé le harpon, en tout cas pour pêcher. Les pointes de sagaie dont je vous parlais tout à l'heure, avec le rajout des petits morceaux en silex, des poinçons, d'autres pointes de sagaie. Et ici on a cette petite partie sur la spiritualité. Alors au piège, malheureusement, on n'a pas, les grottes ne sont pas peintes, ou en tout cas, on n'a pas retrouvé vraiment de traces de peinture. Alors, elles sont très accidentées, donc on ne peut pas travailler dedans. C'est un peu compliqué. On travaille à l'entrée des grottes. En plus de ça, les grottes ont été vraiment lessivées par les occupations qu'il y a eu après. Quand on ira sur le site, je vous montrerai, il y a des habitats troglodytes aussi, et il y avait des terrassements qui ont été faits. Donc, au niveau art, au piège, à part la feuille de laurier, que moi, en tout cas, je mets dans la catégorie plutôt artistique, on a juste quelques petites barrettes en os qui ont été... Alors quand je dis barrettes, c'est des petits morceaux de bois de 10 cm qui ont été gravés. Mais on n'a pas de peinture comme à Cougnac qui se situe pas très loin des grottes du piège. Et au niveau de, par exemple, le fait que Néandertal enterrait ses morts aussi. Donc là, toute cette partie art et spiritualité, c'est pour montrer aussi que Néandertal, comme nous, on avait des cultures en tout cas qui favorisaient l'art, les bijoux. Alors Néandertal, on n'a pas encore de preuves qu'il peignait. En tout cas, il utilisait de l'ocre. Mais comme les datations sur les parois des grottes sont très compliquées, comme on ne peut dater que les peintures noires faites au charbon, des fois on a des doutes de savoir si Néandertal a pu peindre certaines des peintures. Pour l'instant, on n'a pas la preuve. Il y a quelques datations en Espagne, mais c'est encore très frais. Savoir que l'archéologie, souvent, on leur donne... Quand on a des nouvelles, on donne un ou deux ans, quelques années en tout cas, pour voir si on est sûr des datations, parce qu'on les refait très souvent, et souvent c'est repris.
Donc là, on a une image, une sépulture, donc il y avait vraiment une certaine spiritualité, ce que vous disiez.
En tout cas, on le montre pour Néandertal, comme quoi Néandertal avait vraiment une attention pour ses congénères. C'est le premier, comme nous on s'est développé à peu près en même temps que lui en Afrique et lui en Europe, c'est le premier en tout cas à enterrer ses morts. À prendre une attention pour pas que les défunts se fassent dévorer par d'autres animaux. Donc le crâne que je vous montrais tout à l'heure de la chapelle au sein, c'est un crâne d'une sépulture. Et Néandertal s'occupait de ses congénères, même on retrouve des indices comme quoi Néandertal s'occupait même des personnes malades et âgées. Alors tout ça, c'est des indices avec des interprétations. Bien sûr, toujours à réoquer, mais... Après, nous, on a commencé à enterrer nos morts, mais sur certaines périodes, les morts étaient traités de façon différente. Ils ont pu être brûlés aussi. Il y a des techniques d'incinération, et les techniques de sépulture varient en fonction des cultures et des périodes. Parce que là, il faut bien s'imaginer que sur toutes les périodes que je vous ai parlé aujourd'hui et toutes les cultures, on part sur des échelles de temps très importantes. On part de 45 000 ans à 18 000 ans au plus récent. Notre histoire qui s'est construite sur 2000 ans, on peut voir qu'il y a une échelle qui est dure à percevoir pour nous, hommes du 21e siècle, qui se basons sur des échelles très basses.
Et en plus, on veut toujours aller plus vite que le temps. Donc,
c'est ça. Je peux vous dire que je parle souvent des peintures de Lascaux. Entre les peintures de la grotte Chauvet et les peintures de Lascaux, il y a autant de temps entre les deux que Lascaux et nous.
Oui, ça fait une sacrée marge.
Il y a certaines peintures qui sont recouvertes par des plus récentes. Et des fois, l'échelle de temps est aussi grande que quand nous, on les a redécouvertes. Donc les personnes qui sont venues peindre par-dessus devaient redécouvrir comme nous, on découvre ces peintures-là.
Ce qui veut dire qu'en fait, ils utilisaient aussi, malgré la différence d'époque, les mêmes lieux pour vivre ou pour peindre.
Alors,
on peut l'imaginer comme ça.
Il y a beaucoup de sites où il y avait sûrement de l'art, qui ont été malheureusement détruits par le temps. Parce que l'avantage de notre région, c'est qu'on a beaucoup de grottes. Beaucoup de grottes qui, au moment du réchauffement climatique, sont venues se colmater par la fonte des glaces et des coulées de boue. Il y a beaucoup de grottes où vous allez voir qu'il y a des coulées de boue qui bouchent l'entrée, ce qui a permis de conserver un microcosme très stable, qui a permis de conserver ces peintures. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des endroits en plein air qui ont sûrement été peints ou gravés. Il y a certains sites où on retrouve sur des habitats en plein air de la gravure, mais on voit qu'elle était très lessivée et il y avait sûrement aussi de la peinture. Mais il y a quelques sites où on voit encore quelques petites traces. Et puis il y a surtout aussi beaucoup d'art mobilier. On en parle moins parce que c'est moins vu, mais ici on a. Bon, j'utilise les bijoux qu'on a en reproduction ici, mais on a des petites statuettes en ivoire ou en os. Et ça, c'est des objets mobiles qu'on appelle. Ou aussi des galets qui sont beaucoup gravés. Donc voilà un petit peu pour le tour du musée.
Et on peut aller sur le site, ça vous
va ? Bien sûr, oui.
Ok, bon bah super alors.
Donc ici, on est sur le site archéologique du Piège, donc qui se situe à 4 km de la maison du Piège. Donc, le chantier est encore en cours, donc on a des barrières qui protègent le site. Donc notamment, on a des bâches aussi pour protéger de la végétation. Donc elles sont un peu cachées par des arbres, mais ici, on a deux grottes. Donc la première à gauche ici, qui est pas très profonde, et la deuxième qui paraît pas très grande, mais qui a un grand réseau de boyaux en fait, où on peut s'infiltrer dedans. Donc les grottes sont assez accidentées. Donc les fouilleurs ne vont pas dedans pour le moment, en tout cas tant que ça ne sera pas sécurisé. La zone de fouille se situe vraiment à l'entrée des grottes. Il faut savoir qu'à la préhistoire, on a beaucoup le mythe de l'homme des cavernes, mais les hommes n'ont jamais vécu vraiment au fond des grottes. Donc à droite, ici, on a les zones de l'ancienne fouille de Monsieur Champagne et Monsieur Espatillé, qui a été repris par l'équipe depuis 2004, qui a été nettoyée et analyser. Et le principe en archéologie, c'est qu'on laisse toujours quelque chose pour les générations futures. Donc ici, à gauche, c'est la zone de fouille actuelle. On peut voir qu'aujourd'hui, elle est couverte pour protéger les étudiants. Il y a une petite passerelle pour justement éviter de marcher sur le site, qui va nous permettre de voir la coupe et de la travailler centimètre par centimètre. Donc Monsieur Champagne et Monsieur Espatillé, ils sont assez connus dans le Lot pour avoir fouillé d'autres sites. Monsieur Champagne avait notamment fouillé le site des Fieux. Et en fait, ils avaient un ami près de Miac. Et souvent, ils venaient ici, ils avaient vu qu'il y avait beaucoup de silex qui retrouvaient en surface. Et il y avait surtout cette source qu'on voit ici à gauche. Elle est très agréable, il faut savoir que les locaux viennent toujours s'approvisionner en eau ici parce qu'elle est très agréable à voir, elle est totalement potable. Et en fait, dans les années 50, il y a eu une grande sécheresse et cette source a arrêté de couler. Du coup, catastrophe auprès des locaux. Ils ont construit, juste derrière vous, ce réservoir, en fait, pour accueillir de l'eau pendant les périodes plus humides et pour que la source coule en continu. Et lors de la construction de ce réservoir, en effet, énormément de matériel archéologique sont ressortis du site. Et c'est là que Monsieur Champagne et Monsieur Espatillé, qui avaient déjà un bon doute sur l'occupation de ce site, ont vraiment commencé les fouilles. Donc l'intérieur des grottes, de toute façon, ont été totalement lessivés par les pluies, la source, et notamment aussi par des occupations médiévales, parce que les grottes étaient utilisées comme terrassement pour faire quelques cultures. Et au-dessus de la grotte de gauche, on peut voir de petits trous dans la paroi. En fait, c'est un ancien habitat troglodyte. On a même un pigeonnier. Derrière, on a un escalier qui y monte. On peut voir que le site a été occupé sur toutes les périodes de l'histoire et de la préhistoire. Même derrière, on a une ruine d'un moulin qui était encore debout jusqu'à pas si longtemps que ça, qui est un moulin qui est vraiment encore étudié aujourd'hui parce qu'il a une meule très particulière. Il a été détruit après sa reconversion. Il servait à sécher le tabac qu'on cultivait beaucoup ici. Le tabac ont fait que les poutres se sont effondrées et le moulin était totalement détruit. Ici, en fait, on est sur un espace classé ENS. Qu'on dit espace naturel sensible. Du coup, on a le département du Lot qui vient régulièrement recenser les espèces végétales, les insectes. On a une très bonne biodiversité grâce aux cours d'eau qui circulent ici. Donc c'est la Rolinquière qui suit, en fait, qui va jusqu'au moulin. Comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur une zone géologique vraiment de croisement de deux climats et qui était en vrai très stratégique pour chasser et même pour s'abriter. Il faut s'imaginer aujourd'hui, on est dans la forêt, mais à l'époque c'était vraiment désertique, des steppes, Et c'était, on voyait pas les mêmes animaux et les mêmes plantes.
Voilà, bien sûr, on peut pas aller sur le lieu des fouilles, mais vous, en parallèle, vous organisez des ateliers.
Alors,
au sein du musée, qui peuvent se passer ici aussi.
Alors, il y en a certains qui se passent ici. Quand on fait la fête de la préhistoire, parfois c'est ici. Comme on a un grand espace, on peut organiser énormément d'ateliers sur place, donc du tir à l'arme préhistorique, il y a certains intervenants qui viennent tailler la pierre pour montrer de la parure, et on a des fois quelques repas qui se font ici, donc c'est surtout sur l'événementiel. Quand les archéologues sont sur place, des fois on fait des visites spécialisées avec les archéologues. On organise aussi des ateliers avec le département, donc où la Maison du Pillage vient apporter un peu la notion de préhistoire sur le site, et des intervenants du département viennent au contraire parler de tout ce qui est espace naturel sensible, des plantes qu'on peut retrouver, des moulins justement parce que le moulin a été classé ici, et des insectes qu'on va retrouver ici, donc sur l'éducation pour les plus jeunes. L'espace aussi est régulièrement nettoyé grâce à des chantiers jeunes qui viennent faire un débroussaillage et notamment nettoyer le sentier qui nous ramène à Fajolles. Car, comme je disais, on est à 4 km de Fajolles, mais il y a une possibilité de faire une grande boucle qui part du site vers la Maison du Piège et qui nous ramène au site. Je crois 1 h 15 de randonnée en tout pour faire la boucle en entière, c'est à peu près 7 km. Mais c'est très agréable. Juste pour préciser, à la Maison du Piège, donc on a la partie musée, on a toute la partie animation qui se fait à l'extérieur du musée, partie exploration fouille avec où on invite alors enfants ou même plus grands à venir découvrir la fouille et comment on fait. On a un atelier parure pour où on est invité à reproduire avec les mêmes méthodes des hommes préhistoriques des parures en pierre. Un atelier peinture où on utilise pareil les mêmes méthodes de l'ocre pour faire de la peinture comme à la préhistoire. Et cette année, on n'a pas chômé pendant le confinement. On va introduire de nouveaux ateliers, donc tir à l'arme préhistorique, et surtout une démonstration de taille de silex, et des ateliers sur le feu aussi, sur comment on faisait du feu à la préhistoire et comment on peut en faire aujourd'hui. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Au contraire. Souvent, les adultes restent un peu en arrière en disant non, et puis ils viennent très très vite s'y frotter.
Eh bien, merci beaucoup pour cette visite et puis à très bientôt. Au revoir Louise.
Au revoir.
La Maison du Piège peut se visiter du mercredi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Le départ de la dernière visite étant à 17h. Vous pouvez contacter la Maison du Piège au 07 77 05 33 69 ou par mail contact@maisondupiage.fr. Et pour plus de renseignements, allez sur leur site maisondupiage.fr. Vous y trouverez également tous les ateliers proposés. Retrouvez notre émission Les premiers pas de l'histoire consacrée à la Maison du Piège dimanche 4 juillet à 19h30 et également sur notre site internet antenne-d-oc.fr. Et pour notre prochain rendez-vous, je vous ferai découvrir la plage aux ptérosaures. Au revoir à toutes et à tous et à tout bientôt.